Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Piovesan, journaliste AEF Info, et je suis aux côtés de Bernard Ramanantsou, ancien patron d'HEC Paris, pour questionner notre invité du jour, Federico Passine, directeur général d'HEC Montréal. Bonjour Bernard et bonjour Federico.
Bonjour Sarah, bonjour Federico.
Bonjour tout le monde.
Federico Passine, je vais commencer par présenter un peu votre parcours, parce que si votre institution est bien connue de nos auditeurs, votre nom l'est peut-être moins. D'abord, il faut dire que vous êtes diplômé d'une école française. Après avoir suivi des études initiales au Québec, à l'École Polytechnique de Montréal, vous avez en effet rejoint l'École Centrale de Paris, aujourd'hui Centrale Supélec, pour y faire votre doctorat en génie industriel. Vous n'êtes donc pas un pur produit des sciences de gestion. Vous êtes, comme votre lointain cousin Bernard, un ingénieur de formation. Votre expertise, ce sont les gros tuyaux, entre guillemets, la qualité, je cite, l'amélioration des systèmes opérationnels, la flexibilité et la gestion des processus. Vous rejoignez très tôt HEC Montréal, dès 1994, où vous devenez professeur au département de gestion des opérations et de la logistique. Après y avoir occupé plusieurs fonctions administratives, vous en êtes donc nommé directeur le 1er juin 2019. Vous semblez donc vous plaire à HEC Montréal. Expliquez-nous en quelques mots ce qui fait sa saveur, sa personnalité, sa distinction à vos yeux.
Moi, j'aime beaucoup œuvrer à HEC Montréal. D'ailleurs, le 1er juin, ça fera 30 ans que
félicitations.
J'y travaille. Merci. Je dirais... son ouverture, sa diversité, son ouverture sur le monde. Hein. HEC Montréal a été créé en 1907 pour former des Franco-Canadiens au commerce. Mais depuis, c'est ouvert, c'est diversifié. On est vraiment un tremplin pour les Québécois francophones qui veulent œuvrer à l'international. Mais on est aussi la porte d'entrée pour le Québec, pour plusieurs internationaux. Donc, un milieu très ouvert.
Rappelez-nous, HEC Montréal, elle est autonome ou elle est... Elle fait partie de l'Université de Montréal.
Elle est autonome. On a notre propre conseil d'administration, mais on est affilié avec l'Université de Montréal, avec qui on partage des infrastructures sportives et certains services, mais nous sommes autonomes.
OK. Alors, vous êtes de passage en France en ce moment, mais vous avez aussi une équipe permanente à Paris. Et nous brûlons évidemment de savoir ce que représente le marché français pour HEC Montréal. Qui recrutez-vous? À quel niveau? Combien de gens et comment cela a-t-il évolué dans les deux ou trois dernières années, disons depuis la période Covid?
Les étudiants français, principalement, viennent dans notre bachelor, que nous on appelle BAC. Donc, c'est un programme en 4 ans, incluant une prépa. Mais on en a aussi dans nos MSc, beaucoup moins au MBA et certains au PhD. Principalement, au bachelor. Ils sont environ 1100, 1200 par année qui viennent sur nos 13 000 étudiants. Et je crois qu'on a une certaine stabilité depuis un bon nombre d'années. Là, on a créé le bureau il y a plus de 20 ans. Au début, on en avait très peu. Mais progressivement, les choses se sont bien passées pour nous. On attire les étudiants français qui viennent chez nous.
Et la tendance est à la hausse, à la baisse?
Moi, je dirais à la stabilité. On a, avec le temps, relevé, on est de plus en plus sélectif. Hein, ceux qui veulent venir au bachelor doivent avoir la mention bien, très bien, des bons résultats en mathématiques. Et comme vous le savez très bien, il y a toute une compétition là, dans le marché des grandes écoles. On regarde ce qui se passe à Bocconi, dans les écoles espagnoles, dans les écoles françaises. Donc, on est une option très intéressante, mais il y a plusieurs options là, sur le marché international.
Les acteurs français redoutent un peu ce flux d'étudiants français qui, après le bac, partent chez vous. Ils ont raison d'avoir peur? On a raison d'avoir peur ou bien pas vraiment?
Moi, je pense que les universités aujourd'hui veulent former les leaders de demain et on en a besoin de beaucoup de leaders qui vont assurer la transition écologique, former des leaders responsables. Moi, je vois mes partenaires européens comme des partenaires. Et collectivement, on a beaucoup de gens à former. Je pense qu'il y a une belle stabilité, la recherche qui se fait en collaboration. Les universités, on ne s'en rend pas compte, mais travaillent énormément en collaboration, en recherche. Moi, je vois plutôt des partenaires que des rivaux qui me font peur.
Mais c'est presque au niveau national qu'on a peur de ces flux vers l'étranger. C'est pas tellement au niveau des partenariats, bien sûr, parce que tout le monde est d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais au niveau national, on se dit que, et au niveau des classes préparatoires françaises, on se dit que ben il y a un risque frontal de grands flux vers l'étranger, notamment au Canada.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, non seulement au Canada, mais en Espagne, en Italie. Il y a beaucoup moins d'étudiants québécois qui voyagent à travers le monde pour des formations initiales. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Par contre, j'ai l'impression que c'est une énorme force pour la France d'avoir autant de jeunes qui ont connu l'étranger. Plusieurs d'entre eux reviennent au pays, d'autres s'installent ailleurs et ça crée un réseau. Moi, j'ai l'impression que la France en ressortira plus forte, mais je peux me mettre dans la tête d'un gestionnaire d'école et être craintif par rapport à ces flux. Mais en même temps, les écoles françaises n'ont pas le choix d'innover. Je vois les programmes, les nombreux bachelors, hein, parce que les grandes écoles qui avant avaient des classes seulement préparatoires avant, puis ne prenaient pas les lycéens. Maintenant, c'est de plus en plus le cas. On regarde les SEC, CP, les programmes de grande qualité. Donc, à la fois, ça doit faire peur, mais à la fois, ça oblige à se surpasser. Et je dois dire qu'au cours des dernières années, j'ai beaucoup d'estime pour ce qui a été fait en France pour renouveler les programmes.
Le pourcentage d'étudiants non canadiens aujourd'hui dans votre établissement, c'est...
Environ 30%, mais c'est drôle, je dirais que ça dépend comment on compte. Parce que c'est relativement facile d'être résident permanent au Canada. Et comme c'est avantageux d'un point de vue des frais de scolarité, certains, par exemple, au MBA, vont venir 1 ou 2 ans avant de venir chez nous pour bénéficier de frais beaucoup plus bas. Donc, j'ai probablement même moins de la moitié des étudiants qui sont nés au Canada, qui sont chez nous. Mais si je regarde leur statut chez nous par rapport aux frais de scolarité, là, ça va même être 24 dans ce coin-là pour cent.
On sent que, enfin, on lit que la politique migratoire canadienne actuelle est peut-être en train de changer. Comment est-ce que ça impacte votre stratégie?
Il y a beaucoup d'incertitudes pour l'automne prochain parce que, comme vous le savez probablement, le gouvernement canadien a défini maintenant des visas, des quotas, qui est une situation que je peux comprendre parce que dans le passé, c'est pas le cas au Québec, ce n'est pas le cas au Québec, mais en Ontario et dans d'autres provinces, certains collèges, donc des universités qui donnent seulement les 2 premières années, comme le visa étudiant permet de travailler, plusieurs disaient « Venez chez nous, on va vous inscrire comme étudiant, mais vous pourrez travailler. » Et donc, il y a énormément de gens qui ont court-circuité le système pour venir travailler au Canada en s'inscrivant dans des programmes bidons. Ça n'a pas été le cas au Québec. Nous, les étudiants qui viennent, ils viennent chez nous. D'ailleurs, on doit démontrer au gouvernement que c'est bien le cas. Ce qui fait que le gouvernement canadien, au lieu de pénaliser ceux qui contournaient les règles, a décidé de mettre un système de quotas pan-canadiens. Cela étant dit, le gouvernement est aussi conscient de où étaient les problèmes. Donc, on a la perception que le nombre de quotas va faire en sorte qu'on ne sera pas tant pénalisé. Mais en effet, il y a un souci de ce côté-là parce que, en plus, le quota n'est pas fonction du nombre d'étudiants que nous aurons, c'est fonction du nombre de visas qui vont être donnés. Et donc, si un étudiant reçoit son visa, mais décide « Ah, je préfère rester en France, je vais plutôt aller à telle école parce que j'ai aussi été accepté », bien, ça fait une personne de moins pour nous dans les quotas. Donc, à l'automne prochain, il y a une certaine inquiétude. On verra. C'est la première année qu'on met en place ce système, qui est un système, dans le fond, moi, j'ai la perception que c'était aussi politique. C'était une façon de montrer à la population « On est en contrôle ». La crise du logement, on lutte sur tous les fronts, il y aura moins d'étudiants, etc. Il faut savoir qu'au Canada, une personne sur 40 n'était pas au Canada l'année dernière. Donc, d'accord. Il y a eu beaucoup d'immigration au cours des dernières années.
Et alors, le sujet qu'on est en train de traiter, là, ça débouche bien sûr sur la grande question de la langue française, de la place de la langue française dans votre stratégie. Comment êtes-vous contraint ou comment jouez-vous avec ça notamment dans les programmes. Est-ce que vous avez le droit de faire des programmes anglophones, un peu, beaucoup? Est-ce que c'est limité? Enfin, vous pouvez nous en parler?
C'est vraiment une excellente question. Vous savez, quand on a été créé en 1907 par la Chambre de commerce, c'était vraiment pour les Québécois francophones. McGill existait. Et donc, l'idée, c'était de créer une classe de gestionnaires francophones. Parce qu'à l'époque, la population francophone était nettement moins riche que la population anglophone. Donc, comme on a cette histoire, comme on est lié à la francophonie, il y a une certaine sensibilité à la langue. Mais je vous dirais que notre stratégie d'avoir des programmes multilingues, notamment au bachelor, là, où on a une possibilité en français, mais aussi bilingue ou trilingue anglais, français, espagnol, avec l'ALENA, puis le partenariat économique avec le Mexique, je crois que ça crée cette ouverture. Et comme j'ai l'impression aussi que HEC Montréal est souvent perçu par les Québécois francophones comme un tremplin vers l'international, donc l'anglais devient un atout extrêmement important. À l'inverse, c'est aussi la plateforme d'intégration pour rester au Québec, parce que beaucoup d'étudiants qui viennent à HEC Montréal veulent rester quelques années pour s'y établir, avoir une expérience de travail québécoise. Et Montréal, bien sûr, on parle anglais, mais on parle d'abord et avant tout français. Donc, pour travailler, le français devient important. Donc, c'est pour ça qu'un programme multilingue ou un non-francophone va perfectionner son français devient aussi un atout pour pouvoir y travailler par la suite. Maintenant, parce que pour exceller et être visible à l'international, il faut aussi avoir quelques programmes en anglais, des programmes phares où on met en lumière nos forces. On a certains MSC qu'on offre en anglais. Mais je vous dirais qu'à chaque fois qu'on offre un nouveau programme en anglais, il y a une sensibilité dans la presse. Est-ce qu'on est en train de vendre notre âme au diable pour faire plus d'argent? Ça peut être mal perçu. C'est pour ça que c'est toujours délicat et bien analysé.
Et les profs que vous recrutez, vous leur imposez de parler le français?
Les professeurs que nous recrutons 3 ans après être arrivés doivent être aptes à enseigner en français. Donc, on va les encadrer, on leur donne des cours privés où l'enseignant se déplace dans le local de notre professeur. Et donc, toutes nos participations, là, nos rencontres administratives entre nous se passent en français. Et donc, nos professeurs, ça fait partie de l'équation. De venir s'installer à HEC Montréal, c'est de dire, je vais exceller en recherche, je vais enseigner, et si je ne connais pas le français, je vais devoir déployer des efforts parce que c'est important pour l'institution.
Au global, les programmes en anglais, ça représente combien en pourcentage de l'ensemble de vos programmes?
J'irais environ 10 à 15%.
Ah oui, c'est vraiment
seulement
en
anglais, parce que ce sont par contre des programmes importants pour l'école. Le MBA, le PhD, donc des programmes très ouverts sur l'international et où nos diplômés vont œuvrer à l'international. Parce qu'en général, les gens qui veulent rester ou avoir une expérience québécoise, souvent, le français est un atout, oui, même nécessaire. Et dans ces programmes en anglais, en parallèle, par exemple au MSc ou MBA, on a le MBA+, où l'étudiant va pouvoir arriver plus tôt durant l'été, avoir des cours intensifs de français, et aussi au programme traditionnel va se greffer des cours de francisation. Donc, dans tous les cas, l'aspect francophone de HEC Montréal est quelque chose d'important pour nous.
Mmh. En France, le format du bachelor, vous en avez parlé tout à l'heure, a explosé durant la dernière décennie. Les jeunes plébiscitent cette nouvelle offre qui s'est beaucoup développée dans les écoles de commerce. J'aimerais savoir ce qu'il en est au Québec et plus particulièrement à HEC Montréal. Quels sont les programmes qui ont connu la plus forte croissance ces dernières années? Est-ce que ce sont les bachelors? Est-ce que ce sont les masters? Est-ce que ce sont des programmes plus courts?
Nous, le bachelor, ça fait longtemps qu'on l'offre. Ce n'est pas une nouveauté. Donc, c'est plus un programme en stabilité ou légère croissance. Les programmes où il y a beaucoup de mouvements sont les programmes qui s'adressent plutôt aux gens qui sont déjà sur le marché du travail. Comme les DESS, en France, ça n'existe plus, mais on a encore les MSC. Donc, les programmes qui s'adressent à des gens qui veulent, soit en continuité d'études, devenir des spécialistes de la finance, du marketing, etc., ou des gens qui travaillaient et qui viennent se spécialiser en intelligence artificielle, sciences de décision, etc. Donc, moi, je dirais, c'est une excellente question, il y a beaucoup de mouvements dans notre portefeuille de programmes. Et les formations non diplômantes sont aussi en croissance importante. Ce qu'on appelle en anglais le « executive education
», formation
de cadres et dirigeants. Pour nous, on avait un marché, il y a peut-être 10 ans, de 1 ou 2 millions de revenus. Et là, on est rendu dans les 20 millions.
En quelques années?
En quelques années.
Et vous êtes le premier acteur québécois sur ce marché-là?
Oui. Et au niveau canadien, on doit être à peu près deuxième. Et d'ailleurs, on fait très bien à ce niveau. Par exemple, dans le récent classement du Financial Times, on est deuxième au Canada et 33e au monde et en croissance.
Et quelle est la part de vos revenus sur le budget? Ça représente...
Environ 10 %.
Vous avez de la marge alors?
Oui.
Vous avez des objectifs en la matière?
Les objectifs ne sont pas tant dans la croissance que dans la qualité de ce qu'on offre et à quel point on aide la communauté d'affaires montréalaise, mais il y a encore de la place à la croissance.
Je reviens sur la question des comportements des étudiants et du choix de leur programme d'études. Est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération là, a une façon différente d'envisager ses études supérieures au Québec?
J'ai la perception que la génération a beaucoup d'attentes envers la vie. C'est-à-dire que, à mon époque, quelqu'un qui débutait son programme allait le terminer, même si peut-être on n'était pas sûr qu'on aimait vraiment ça. Les jeunes ont de grandes attentes. Ils veulent être passionnés par leur travail, avec raison, et donc vont facilement, après la première année, dire « Ah, je pensais que j'aimais la comptabilité, mais moi, c'est plutôt le marketing » ou « Ah, c'est plutôt les ressources humaines ». Donc, j'ai la perception qu'ils sont beaucoup à l'écoute de leurs besoins, de leurs passions, et moi, je vois ça comme une excellente chose. Je dirais, la génération d'aujourd'hui, une grande diversité. Il y a des gens qui sont passionnés, qui parlent plusieurs langues, qui vont être conscients de toutes les possibilités des nouvelles tendances, vont être habiles à programmer. Et à côté de ça, il y a certaines personnes qui sont plus passives. Donc, j'ai l'impression que les écarts entre les meilleurs et ceux qui ont peut-être plus de difficultés sont plus grands que jamais.
Ça vous pose des défis en tant que pédagogue et éducateur? Vous avez des réponses à apporter à ça?
Bon, c'est certain que nous, on a la chance d'être une école qui peut être sélective. Donc, nous, en général, on a les très bons ou les bons. Mais cela étant dit, il y a beaucoup de défis pédagogiques, c'est certain. On regarde la croissance des personnes en situation de handicap, les TDAH, comme on appelle au Québec, les déficits d'attention, ceux qui ont certains défis. Le système québécois a fait en sorte qu'ils ont réussi leurs études et ils arrivent à l'université en croissance. Et donc, il faut savoir s'adapter. Je donne un exemple. La période des examens, le nombre de personnes qui nous met un papier comme quoi ils sont très sensibles au bruit, très sensibles au mouvement, et donc on doit avoir un local spécial pour qu'ils puissent passer les examens, est en explosion. Donc, on doit s'adapter à cette génération qui, c'est fantastique, les gens ont tellement de moyens pour réussir, donc on a de nouveaux types d'étudiants et qu'on doit réussir à... Dans le fond, ces gens-là veulent atteindre leur plein potentiel et on doit être là pour eux.
Ça fait une belle transition avec la question que je voulais vous poser sur votre rapport avec l'univers de l'Amérique du Nord. Vous êtes quand même situé, c'est votre référentiel culturel, ou en tout cas géographique, culturel, je ne sais pas. Les informations qui nous viennent des campus d'Amérique du Nord en ce moment sont assez perturbantes. On entend beaucoup parler de wokisme, de tensions extrêmes entre groupes d'étudiants sur fond de conflits israélo-palestiniens, de campus désertés, de gouvernance bousculée. On a vu ce qui s'est passé à Harvard, notamment. Qu'en est-il au Canada et au Québec? Est-ce que vous traversez le même genre de turbulences?
Je dirais que dans le Canada anglophone, ils vivent des turbulences, quoique moins prononcées qu'aux États-Unis. Et je dirais que dans le milieu francophone, c'est encore moins prononcé. On vit moins ce wokisme. Je pense qu'il y a une grande sensibilité à la liberté de s'exprimer, la liberté de penser, la liberté de parole. Bien sûr, nos professeurs écoutent l'actualité, voient ce qui se passe aux États-Unis et peut-être peuvent être plus prudents dans leur façon de s'exprimer en classe. Mais le gouvernement québécois, notamment, a demandé aux universités de se positionner, d'avoir des politiques claires sur le fait que les professeurs pouvaient se permettre peut-être de bousculer un peu les étudiants, parce que pour apprendre, il faut parfois sortir de sa zone de confort, il faut parfois aborder des sujets difficiles, bien sûr, en le faisant correctement. Donc, j'ai l'impression, au Québec, qu'on n'est pas tétanisé par le wokisme, mais on s'y prépare.
Dernière question stratégique. Quels sont les grands défis que vous rencontrez aujourd'hui et où est-ce que vous vous voyez, où est-ce que vous voyez HEC Montréal dans 5 ans?
HEC Montréal, dans le fond, a été créé à l'origine par la Chambre de commerce. Et on a toujours été à la fois dans une tradition américaine où la recherche est importante, mais aussi dans ce souci d'avoir des étudiants qui peuvent entrer sur le marché de travail et bien contribuer. Et j'ai l'impression que pour continuer à exceller, il faut toujours être ancré dans les besoins de la communauté. Et c'est un défi, dans le fond, quand on regarde tous les objectifs en transition durable au cours des prochaines années. Comment préparer des leaders responsables qui ont tous les atouts, les clés, les données nécessaires et savoir comment les analyser, prendre des décisions responsables, ça, c'est un atout. Par ailleurs, on a besoin d'écoles, d'universités qui ont de l'impact dans la communauté. Pas être des tours d'ivoire, mais vraiment des gens qui trouvent des solutions aux problèmes contemporains, de participer au débat public, parce qu'on a vu avec la COVID, quand les universitaires sont trop prudents à s'exprimer, ça laisse la place aux charlatans. Or, les universitaires, souvent, avant, attendent d'avoir toutes les réponses avant de s'exprimer. Et ça, il ne faut pas. Et donc, on doit apprendre à peut-être être plus rapide à s'exprimer, quitte à, par la suite, se corriger plus tard. Et ça, je pense que les universitaires sont moins habitués à être rapides à s'exprimer. On vit dans une société qui bouge extrêmement vite. On a besoin d'être guidé par des gens qui sont neutres, qui veulent le bien de la société. Et donc, comme université, ça fait partie de ces défis. Être une université qui a de l'impact, qui forme les leaders de demain.
Mais alors, je vais être plus quantitatif. En termes de ranking, par exemple, vous vous voyez où dans 5 ans? Et en termes de budget, ce sera quoi votre budget dans 5 ans?
Dans les rankings, habituellement, Michel Patry, mon prédécesseur, disait 5-20-100. Les 5 meilleurs au Canada, les 20 meilleurs hors États-Unis et les 100 meilleurs au monde. Ça a toujours été un point de repère pour nous. Et j'ai l'impression que les 100 meilleurs au monde, il y a tellement de compétition, il y a tellement de choses qui bougent en Inde, en Chine, ailleurs, que de se maintenir parmi les 100 meilleurs va déjà être un défi. Et bien sûr, on aimerait faire encore mieux, mais sur tous les plans. Aussi bien en employabilité qu'en recherche, etc. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté là, que dans les récents classements, à la fois dans les programmes, à la fois en recherche, on regarde là, dans le classement de Dallas, par exemple, on est parmi les 100 meilleurs au monde, et quand on regarde la qualité des universités qui sont près de nous, que ce soit Oxford, que ce soit d'autres universités, on est fiers de nos classements, puis on a l'ambition de faire encore mieux, mais de façon équilibrée. Quant au budget, HEC Montréal a une croissance importante. Hein, si on regarde les 30 dernières années, on a environ 13-14 000 étudiants. Si je les transfère en équivalent temps plein, environ 9 000. J'ai l'impression qu'on va atteindre notre taille optimale vers les 10 000. Et donc, je ne vois pas dans nos revenus une croissance. Je vois plutôt une belle, douce stabilité et une concentration vers plus d'impact, plus de gestionnaires préparés à vivre la complexité de demain.
Federico Pazin, ce podcast touche malheureusement déjà à sa fin. Avant de vous laisser retourner dans votre beau pays, auriez-vous un conseil de lecture à donner à nos auditeurs pour poursuivre ce dialogue transcontinental?
Je lis un livre complètement fascinant de Ken Liu, The Three-Body Problem, qui, en fait, j'ai été surpris de voir, c'est un total hasard, qui en ce moment est une télésérie sur Netflix.
Netflix, exact. Le problème à trois corps.
Le problème à trois corps en français, que je trouve fascinant. C'est écrit par un auteur chinois qui aborde des sujets sur la science, ce qu'être humain, la quête de la connaissance, sur ce qu'est la connaissance. Ça touche l'intelligence artificielle, les ordinateurs. Donc, c'est un univers fascinant qui déstabilise. Moi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore terminé, j'ai bien hâte de voir la fin.
C'est une somme, je crois. Hein? C'est très long.
Oui.
Plusieurs tomes.
Tout à fait.
Bon, merci beaucoup de ces conseils, Federico Pazin, directeur général d'HEC Montréal. Merci d'avoir fait tout ce chemin depuis le Québec pour nous rendre visite au studio Module. Merci aussi à vous, Bernard Amanantsou, et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité, et d'ici là, portez-vous bien.